tous et merci de nous rester fidèles à l'écoute de la tribune de presse de ce vendredi 30 septembre 2016 que vous présente Berry Conklin Luchaka. Le facilitateur Edem Kodjo se prépare à clôturer au moment opportun les travaux du dialogue avec la signature d'un accord politique. Il a signifié lors de la courte plénière du vendredi de la semaine dernière, si bien qu'aujourd'hui il a reporté les travaux de ce dialogue. Les parties prenantes au dialogue sont actuellement en possession du projet d'accord dont le contenu est basé sur l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. C'est le seul thème des discussions entre journalistes et je reçois dans ce studio Martin Goy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Jean-Claude Dimoila, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur du Climat Tempéré, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Et au téléphone, Romain Kambala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Kasaï Horizon, radio-télévision, émettant à Chitkapa. Et je dis aussi bonsoir à Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de ce numéro. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Mais avant d'ouvrir les débats de ce soir, je vous invite à suivre la revue de presse que nous présente Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Les journaux de la semaine ont traité du projet d'accord politique qui devrait vraisemblablement être signé à la fin du dialogue entre la majorité présidentielle, une partie de l'opposition et la société civile. Le facilitateur Edem Kodjo a distribué cette proposition vendredi 23 septembre 2016 aux participants du dit forum. Le potentiel qui a regardé dans le détail le projet d'accord note que, de bout en bout, ce projet fait la part belle au chef de l'État, Joseph Kabila. Pour sauver ce dernier, indique le journal, la MP a cédé à l'opposition le poste de Premier ministre, passant outre les dispositions prévues en la matière par la Constitution. Joseph Kabila est ainsi tiré des griffes de l'article 220 de la Constitution qui le disqualifiait de toute course à la prochaine présidentielle. L'accord de Kodjo autorise les glissements, titre pour sa part la tempête de tropique, rapportant que ces documents qui crachent sur le sang des Congolais s'appuient sur l'arrêt 262 de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2016 qui veut que l'actuel chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Le quotidien précise que ce document ajoute de l'huile sur le feu car selon la tempête des tropiques, l'accord politique boutiqué à la cité de l'OUA fait aussi état de l'impossibilité technique d'organiser les différentes échéances électorales dans les délais initialement prévus. Sur le même sujet, le phare titre dialogue, ce que personne n'ose dire, renseignant que le projet d'accord ne précise pas la durée de la période intérimaire ou transition entre l'expiration du second et dernier mandat de l'actuel chef de l'État et l'organisation effective des élections. De son côté, le palmarès renseigne que ce draft de 15 pages indique que les participants au dialogue vont s'accorder avec la CENI pour l'élaboration d'un calendrier électoral en fixant une date raisonnable pour la tenue de l'élection présidentielle. Changeons de chapitre pour parler des nouvelles sanctions des États-Unis contre certains officiers militaires et policiers de la RDC. Le bureau du département du Trésor américain des contrôles des avoirs étrangers a placé John Numbi Banza Tambo et le général Gabriel Amissi Kumba alias Tango Fort sur la liste des personnalités dont les avoirs et biens sont gelés aux États-Unis. Rapporte le potentiel. Les États-Unis prônent le chaos. Les Congolais appelés à se souder pour faire face à cette menace annoncent de son côté l'avenir. Le quotidien invite ainsi les compatriotes à faire un choix entre la protection de ce qui est cher, à savoir la nation, et certains intérêts privés ou les calculs politiciens. Le palmarès, enfin, rapporte que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, dénonce ce qu'il considère comme des pressions et des injonctions combinatoires d'origine étrangère qui continuent ainsi de semer le trouble dans les esprits. Et le journal de dire que Lambert Mende rejette des dates et des agendas qui ne tiennent aucun compte des réalités nationales concrètes et qualifie les sanctions américaines d'ubuesques et en violation de toutes les règles de procédure et même du droit international.
Merci Kelly. Et donc Dans l'actualité de la semaine, vous le savez, l'administration américaine a annoncé mercredi 28 septembre dernier des sanctions financières contre les généraux Gabriel Amisi Kumba et John Numbi, respectivement commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise et ancien chef de la police nationale congolaise. Leurs avoirs éventuels aux États-Unis seront gelés et il est interdit à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces individus. Le département du Trésor américain a déclaré, je cite, ces responsables actuels et anciens du gouvernement de la RDC se sont engagés dans des actions qui ont sapé le processus démocratique en RDC et réprimé les libertés et droits politiques du peuple congolais, risquant de répandre l'instabilité dans le pays et plus largement dans la région des Grands Lacs. Fin de citation. En réaction, le gouvernement de la RDC dénonce, je cite, des sanctions ubuesques en violation des toutes les règles de procédure et même du droit international. Fin de citation. Pour le gouvernement congolais, il s'agit là des initiatives cavalières. Marcel, vous avez suivi cette actualité. Comment vous avez analysé cette actualité justement?
Oui, les sanctions telles qu'on les a annoncées ont une portée réelle sur la marche du pays, parce qu'elles sont de nature à troubler les esprits, à démobiliser les troupes. Ici, Gabriel Amisi Tangofor, même John Numbi, ce sont de hauts responsables. Et lorsqu'ils sont touchés, ça veut dire que la personne principale qui est visée, c'est celle qui les utilise. Donc la cible principale, comme on voit là, c'est que on s'est commencé à déverrouiller le système, le régime du président Kabila, et pourquoi pas cibler la tête du président Kabila lui-même. Et j'aimerais aussi qu'on en arrive à une sorte de dédramatisation de la situation. Mm-hmm. Il n'existe pas à ce stade un conflit ouvert entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Il existe bien sûr des sanctions américaines ciblées contre certaines personnalités. Alors, nous avons dit que derrière Patrick Anguille-sur-Roche, on voit la tête principale qui utilise ces gens, mais on ne peut pas forcément impliquer, dire qu'aujourd'hui les relations bilatérales entre les deux pays ne sont pas au beau fixe.
Merci.
Mais on constate par ailleurs qu'en guise de représailles, il y a des Congolais qui sont expulsés de la Belgique, des Congolais qui sont expulsés des États-Unis. Donc déjà, c'est comme si, au-delà de ces individus, la liste pourrait
s'allonger. D'accord. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous comprenez la réaction du gouvernement congolais?
Bon, la réaction du gouvernement congolais, c'est une réaction d'un gouvernement qui se sent menacé et qui doit se défendre, bien sûr. Mais bon, moi, je m'interroge beaucoup plus sur la portée de ces sanctions. Mon estimé confrère a peut-être touché la plaie en disant qu'il y a plus des effets psychologiques. C'est une guerre psychologique, mais en arrivé aux sanctions, je pense que le gouvernement de Kinshasa a atteint les sommets de l'isolement diplomatique. Je pense que c'est ça les signes les plus significatifs. Et quand on voit l'énervement qu'il y a dans le gouvernement, quand on voit les officiels congolais qui se permettent d'aller agresser un diplomate étranger, je pense que nous sommes maintenant au-delà de la diplomatie et nous sommes en face où tout près d'une confrontation. Et c'est cela la leçon qu'il faut tirer.
Oui, la leçon qu'il faut tirer, justement. Mais lorsque on accuse le général Numbi pour des faits d'il y a 6 mois, est-ce que ces faits pour lesquels les deux généraux sont accusés sont réellement passibles des sanctions, selon vous?
Bon, mais là, on est en face d'une épreuve de force. Quand on est dans une épreuve de force, on use de tous les instruments qui sont à sa portée pour porter le coup le plus important à son adversaire. Et c'est cela, l'Amérique ou les États-Unis ont plusieurs leviers pour frapper ce que le gouvernement congolais n'a pas. Et je pense que dans la situation actuelle, la sagesse devait imposer au gouvernement congolais le désescalade.
D'accord. Alors, Romain, vous êtes à Tshikapa, je le rappelle. Pensez-vous que les sanctions qui ont été imposées aux hauts responsables de l'armée de la police nationale congolaise peuvent avoir des répercussions?
Bon, les sanctions en soi peuvent avoir des répercussions, tout comme ça ne peut pas avoir sur les deux plans. Je m'en vais d'abord par le premier plan qui demande... qui précise que ça peut avoir de répercussions, parce que nous ne savons pas le type de change ou de relations qui sont opérationnelles entre les individus en question qui sont ciblés et le pays qui aujourd'hui les sanctionne. Il faut d'abord faire l'étude de relations qui existent entre les deux pays et le type de transaction. De deux, ça peut ne pas avoir de répercussions parce que, comme là, tu venais de poser la question, au-delà de 6 mois ou qui date de 6 mois, on ne comprend pas les mobiles réels pour lesquels ces sanctions tombent en ce moment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme les amis l'ont épinglé, il y a quelqu'un qui est recherché. C'est pas Numbi, c'est pas Amissi Tangofo, mais par contre, c'est la tête du pays, le président de la République, par rapport à la pression forte qu'on veut mettre sur lui, par rapport à ce qu'on lui demande de faire, compte tenu du moment et compte tenu de la situation actuelle du pays, voilà comment est-ce que ces sanctions sont en train de tomber. Je crois aussi que la liste est longue, ça ne va pas s'arrêter seulement sur le deux là.
Mm-hmm.
Il y aura toujours d'autres qui seront sur la liste. Peut-être, oui. Moi je pense à l'individuel que, à l'heure qu'il est, il faudra que les officiels de la République démocratique du Congo commencent à se demander pourquoi nous en sommes arrivés là.
Mais le souffle que je pose un peu cette question, mais maintenant finalement, qu'est-ce qui va changer? Parce qu'on sanctionne, la liste va s'allonger, vous l'avez affirmé, même Marcel l'a affirmé. Qu'est-ce qui va changer finalement?
Bon, ce qui va changer, c'est la bonne gouvernance. Si la bonne gouvernance est mise en jeu, si la démocratie est respectée, si les normes démocratiques sont respectées, ça va changer quelque chose. Parce que si on reste dans une relation de force d'une main qui donne qui est au-dessus de la main qui reçoit, voilà le problème maintenant. Le problème, c'est juste la main toujours tendue vers l'Occident. Et l'Occident qui donne, aujourd'hui, commence à vous sanctionner même dans les plus petites choses.
Merci.
Alors, je pense, si l'alternance était respectée, la démocratie était respectée, les choses changeraient. Mais si on y va comme on est en train d'aller, je pense que on n'arrivera pas à des solutions, ça ne fera que des sanctions à chaque moment.
Merci. Alors, l'autre actualité de la semaine nous amène au Kasaï central. 49 morts, 30 blessés et des dizaines de personnes arrêtées. C'est le bilan provisoire de l'attaque du jeudi dernier à l'aéroport de Kananga par les miliciens du chef Kamuina Sapu. Le gouverneur de cette province a affirmé ignorer les revendications de ces miliciens, d'autant plus qu'ils ne se sont pas officiellement exprimés. Ensuite, les miliciens du chef Kamuina Sapu ont investi Dimbelenge, son chef-lieu, le mardi dernier, et nous apprenons que les FRDC ont pris le contrôle de ce chef-lieu du territoire de Dimbelenge aujourd'hui 30 septembre 2016 dans la matinée. Romain, vous êtes dans cette partie où l'insécurité sévit. Est-ce que vous confirmez toutes ces informations de cette accalmie?
Oui, effectivement, il s'est passé des choses au chef-lieu de la province du Kasaï central, bien que moi je me trouve au chef-lieu de la province du Kasaï, mais il s'est passé des situations, et la situation telle que détaillée par vous reste correcte et normale. Le bilan lui-même, bon, ça c'est la partie officielle qui a donné. Je pense que si on va dans d'autres camps, peut-être le bilan irait beaucoup plus augmentant.
Alors finalement, vous qui êtes sur place, qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité?
Logiquement, nous ne saisissons pas les réels mobiles de cet affrontement entre un chef coutumier et l'armée du pays. Parce que nous-mêmes, on se demande s'il y a de quoi entre une chefferie coutumière, ça se règle au niveau de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur, le gouvernorat de province à travers la division de l'intérieur règle des problèmes comme ça qui sont liés à la chefferie coutumière. Mais ici, les choses ont pris des dimensions telles qu'on en est arrivé à des affrontements.
Et plus même à la mort d'homme.
Ce qui étonne la population, c'est quoi? Les soi-disant miliciens, quand on les présente, ce sont des hommes avec des bâtons à main, parfois de couteaux, parfois de machettes, mais qui sont réprimés par une armée entière, avec des fusils d'assaut, avec des obus, avec, je me demande personnellement ce rapport-là, à quel niveau nous pouvons le situer, et jusqu'à cette heure, la population se demande les vraies raisons pour lesquelles cet affrontement a eu lieu. On ne s'est pas retrouvé ça.
Merci
c'est
beaucoup.
C'est difficile à interpréter.
Merci beaucoup. Alors Marcel, je reviens à vous dans ce studio. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette insécurité au Kasaï central?
Moi je crois qu'il faut qu'on arrête de vendre l'image négative du pays. La République démocratique du Congo n'est pas un goulag. La République démocratique du Congo n'est pas une jungle. La République démocratique du Congo n'est pas un pandémonium où les gens peuvent s'imaginer à partir du dehors qu'ils peuvent même pas boire un peu d'eau.
Mmh.
C'est un pays qui est habité. Ce n'est pas un État en constitution, c'est un État qui est constitué depuis 60, dont les frontières sont connues avec 9 pays limitrophes. L'image qui est vendue de Beni à Kananga, de Kananga à Kasumbalesa, de Kasumbalesa à Banzangungu, c'est une image négative. Et je crois que les forces loyalistes devraient effectivement restaurer l'autorité de l'État, mais il ne faut pas en faire une boucherie humaine. On n'a pas besoin d'un carnage supplémentaire. Parce qu'en fait, les tueries sont constitutives d'infractions, des génocides, de crimes, de ceci. Donc il faut éviter. Parce qu'en fait, finalement, tout ceci va encore remonter vers le commandant suprême. Moi, je crois que l'usage disproportionné des forces, l'usage de l'arme létale, doit cesser d'être l'apanage de forces loyalistes. Il y a bien moyen d'utiliser des mécanismes démocratiques.
Dans les consultations, le dialogue.
Le dialogue, les barzas intercommunautaires, les échanges avec ces chefferies. Cette chefferie n'est qu'une parmi tant d'autres. Vous savez que dans ce pays, nous avons 88 670 villages. Ce sont des statistiques données par la CENI. Et donc, partout, il y a des chefferies. Lorsqu'on va poser le problème de terre, le problème d'exploitation des ressources agricoles, le problème de ceci, ce sont des problèmes qui peuvent se multiplier. Et donc, les conflits, les guerres fratricides et les conflits interethniques peuvent attiser du feu au point d'embraser toute la forêt.
D'accord. Alors, Jean-Claude, vous avez entendu Romain le dire, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison de cette escalade de violence. Le gouverneur de province l'a aussi souligné. Est-ce que vous comprenez que le gouverneur de province ne connaisse pas les raisons pour lesquelles il y a ces escalades de violence?
Oui, toutes ces manifestations me paraissent liées les unes aux autres, ne sont pas à prendre de façon détachée. Mm-hmm. Et de façon générale, je pense que elles sont l'expression de toutes les frustrations accumulées. Et aujourd'hui, toute occasion pour le peuple semble être propice pour s'exprimer. C'est comme ça que les stades, par exemple, sont devenus des endroits à risque parce que la population peut passer du football à la politique en un rien de temps. Et quand vous prenez toutes ces morts accumulées, je pense qu'il y a quand même le décompte devient de plus en plus sobre et macabre. Ce qui m'attriste, et ce qui attriste aussi une grande partie de la population, c'est les silences du chef de l'État. Les silences du chef. Le chef de l'État ne parle pas devant des événements aussi graves qui se produisent dans son pays. Ce sont les chefs d'État étrangers qui prennent la parole à la place de notre chef. Et ça, le peuple ne le comprend pas. Même aux tristes événements du 19-20, le chef de l'État n'a pas parlé. C'est son directeur de cabinet, qui n'est pas un officiel. Le directeur de cabinet n'est pas une personnalité.
Mais c'est un communiqué officiel.
Non, mais signé par le directeur du cabinet, encore là. Et vous voyez, donc, le pays, le peuple a l'impression de ne même pas être gouverné.
Merci beaucoup. Et nous entrons tout de suite dans notre premier thème de la soirée qui concerne le dialogue politique en RDC. Le facilitateur Edem Kodjo se prépare à clôturer justement au moment opportun les travaux du dialogue avec la signature d'un accord politique. Il l'a signifié au cours de la courte plénière du vendredi dernier. Les parties prenantes au dialogue sont actuellement en possession du projet de cet accord politique dont le contenu est basé sur l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. Askin Zigbia nous donne quelques éléments de cet accord.
C'est un projet de 15 pages qui a été distribué vendredi dernier aux parties prenantes au dialogue au cours d'une courte plénière. Dans ce projet, les participants au dialogue vont devoir, entre autres, s'accorder avec la centrale électorale de la RDC pour l'élaboration d'un calendrier électoral en fixant la date raisonnable pour la tenue des élections présidentielles couplé avec les législatives nationales et provinciales. Par conséquent, le projet indique que la CENI doit publier le calendrier électoral détaillé 15 jours après la signature de l'accord politique. Une période intérimaire de gouvernance de la République est consacrée aussi dans ce projet, c'est-à-dire d'après l'accord, immédiatement après la signature du compromis politique, un nouveau gouvernement de large union nationale doit être mis en place sous la conduite d'un premier ministre ministre qui sera issu des rangs de l'opposition. Pendant cette période intérimaire qui intervient après le 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu de la République. En outre, selon l'accord, ni le premier ministre, ni aucun membre de ce nouveau gouvernement ne peuvent être candidats à l'élection du président de la République.
Merci Askin Zigbia. Sachez que les travaux du dialogue convoqué par le chef de l'État qui devrait reprendre ce vendredi 30 septembre dans les avant-midi après deux semaines de suspension à cause des événements du 19 et 20 septembre dernier sont renvoyés à demain samedi à cause de l'absence du président de la CENI qui doit présenter le chronogramme des échéances électorales. Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que Berry Franklin Luchaka qui vous présente cette tribune de presse reçoit dans ce studio Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît ici. Kinshasa, Jean-Claude Bimoala, éditeur du Climat Tempéré, un hebdomadaire paraissant ici à Kinshasa, et au téléphone, Romain Kambala, journaliste à Kasaï Horizon, radio-télévision, émettant à Tchikapa. Une première question à vous messieurs, quelle lecture vous faites du contenu de ce projet d'accord, Marcel?
Oui, l'accord politique, ce n'est qu'un projet à ce stade. Et ce projet a été soumis aux différentes parties prenantes, aux discussions qui se mènent actuellement à la Cité de l'Union africaine, pour pouvoir l'amender, l'enrichir, le rendre perfectible.
Même quand il n'y a pas les dates précises des élections.
Mais c'est ça même ce qui manque dans cet accord, dans ce projet d'accord. Il manque encore des dates précises des élections. Et la CENCO a mis la barre un peu plus haut en exigeant, outre la date des élections, et un engagement formel de la part du président actuel à ne pas se représenter. La CENCO exige par exemple qu'on puisse définir en mars, en annexe à cet accord, à ce projet d'accord, bien à cet accord, le plan de décaissement, mais aussi que le mécanisme de mise en œuvre de cet accord soit clairement défini dans ces documents.
Je veux...
Alors, oui, donc c'est ça le non-dit qui manque dans cet accord. Mais cet accord conforte plutôt deux options fondamentales qui ont été levées au cours des discussions et un compromis avait été aussi trouvé. C'est concernant la refonte du fichier électoral qui pourrait être une refonte totale et Nanga souligne, à travers des tractations que nous avons eues et des contacts qu'on a eus, des sources proches de la CENI, signale que cette refonte pourrait se terminer le 31 juillet 2017. C'est à partir de juillet 2017 qu'on pourrait avoir un calendrier détaillé. Tout au moins, la CENI, d'après son président, devait se limiter à donner des indications de date. Mais depuis l'Afrique du Sud, nous apprenons, de Basengez Norbert, que s'il y a une indication de date, s'il y a des élections au plus tôt, ça pourrait être le 25 novembre 2018.
D'accord. Merci. Je vous redonne la parole. Jean-Claude, comment vous avez analysé ce projet d'accord?
Accord ou pas accord, les Congolais ont la réputation de faire souvent de bons textes. Mais c'est l'application de tous ces textes-là qui mettent les Congolais parfois devant des situations indescriptibles. Notre constitution était suffisamment claire sur le déroulement, la fonctionnalité des institutions et ainsi de suite. Mais pourquoi on est passé à côté de la constitution, on va à l'accord? Pourquoi on n'a pas voulu appliquer entièrement la constitution? Et cela, parce que si on met la constitution entre parenthèses aujourd'hui, mais c'est tout qui devient entre parenthèses.
Donc, et c'est la crainte que vous avez finalement.
Oui, mais si on met la constitution entre parenthèses aujourd'hui, c'est tout qui devient possible à faire. Je pense qu'on doit revenir à la Constitution. La Constitution est extrêmement claire. Si la fonctionnalité des institutions, les délais des élections, ainsi de suite, que chaque institution tire les conclusions des actes qu'elle a posés. Je pense que c'est cela la solution et qu'on ne veut pas aborder. On va autour du pot, on cherche autre chose. Je pense que toutes les réponses aux craintes des Congolais se trouvent dans la Constitution. Merci. Et même, je voulais ajouter,
allez-y.
Et même la Cour constitutionnelle
oui.
Qui s'est prononcée sur l'allongement du mandat des chefs de l'État. Voilà. Mais cette matière-là, elle n'est même pas constitutionnelle. La Constitution n'a pas prévu la non-organisation des élections.
Et la Cour constitutionnelle n'a fait que rappeler les prescrits de la Constitution.
La Constitution n'a pas prévu la non-organisation des élections. Et donc, quand on n'a pas organisé l'élection, on applique les schémas de la Constitution, c'est clair.
D'accord. Romain, vous êtes à Tchikapa, je le rappelle. Comment vous avez analysé ce projet d'accord?
Oui, le projet, comme l'a dit le confrère, c'est un texte, hein. Élaboré par des hommes pour arriver à des solutions.
Romain, s'il vous plaît, je suis en train de vous entendre un peu entrecoupé. Vous pouvez légèrement vous déplacer un tout petit peu.
Ok.
Non, toujours pas. La ligne se détériore.
Ah là là. Maintenant, ça va?
Oui, là, ça va. Vous pouvez reprendre votre argumentaire.
Ah, je disais que le rapport, nous, Congolais, nous en sommes déjà habitués. Hein. Ce ne sont pas au premier rapport. Nous ne sommes pas au premier rapport aussi. On en a fait, il y en a eu depuis Saint-Titi jusqu'à ce jour. C'est toujours des accords, c'est toujours des rapports. Mais il y a des questions fondamentales autour desquelles nous devons nous focaliser. Parce que nous proclamons et trouvons du droit. Nous déclarons le respect de la Constitution, nous déclarons le prescrit de cette grande Bible qui gouverne et qui guide notre pays. Si aujourd'hui nous allons nous focaliser sur ce qui ressortira de cet accord, de ce dialogue, ça deviendra par après la Constitution de la République. Est-ce que ce n'est pas une manière d'enjamber la Constitution et de la mettre à côté une pour toutes en adoptant les différents protocoles qui sortiront de ces accords? Voilà la question à laquelle je ne trouve pas toujours de réponse.
Mm-hmm.
Nous sommes en train d'avancer avec le dialogue en question.
Donc
vous savez, beaucoup de questions ont été soulevées, comme vous le dites. Ma grande crainte, c'est le non-respect du délai constitutionnel et de la Constitution elle-même. Là, c'est comme si nous sommes en train de réécrire l'histoire du pays. Or, l'histoire a été déjà écrite. Il ne nous reste plus qu'à la respecter.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, Marcel, je reviens à vous. Des analystes politiques, vous avez même entendu Jean-Claude le soulever, même Romain l'a soulevé. Des analystes aussi craignent que ce projet d'accord ne puisse violer la Constitution. Qu'en pensez-vous?
Oui, je suis en train de constater personnellement que il faut pas faire la politique de l'Autriche, c'est-à-dire que ignorer la réalité. Il y a aujourd'hui une impasse. Il n'est plus possible d'organiser les élections dans les délais.
Mais donc, la Constitution a prévu
Il n'est plus possible d'organiser les élections dans les délais.
Mm-hmm.
La CENI l'a dit, ceux qui sont au dialogue l'ont reconnu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on considère comme étant des avancées de ces dialogues, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on va faire la refonte. Et cette refonte prendrait autant de temps.
Mais donc, la Constitution...
Mais le débat aujourd'hui...
Maintenant, quelle est la place de la Constitution dans ce projet d'accord?
Le débat aujourd'hui, c'est sur la fixation de la durée de cette impasse, de ces reports. On veut débattre... les évêques disent que cette transition pourrait être d'une durée minimale de 12 mois.
Et maximale?
Et le maximum, c'est ce que je viens de vous situer ici, que Bassengues vous dit que si on organise les élections le plus tôt, ça pourrait être le 25 novembre 2018. Et que Nanga lui-même précise que la refonte totale du fichier pourrait se terminer le 31 juillet. Ce sont des données techniques qui sont avancées par la CENI. Maintenant, la discussion, c'est que l'opposition a claqué la porte. L'opposition revendiquait quoi? Qu'on arrive à réduire au maximum les délais. La CENCO qui a claqué la porte exige qu'on arrive à réduire. Donc la discussion a dépassé le stade de quand est-ce qu'on organise. Non, l'organisation, on vous dit qu'elle est passée déjà là. Donc le mérite de l'accord, c'est justement de négocier ces consensus-là. Deuxième élément, c'est que l'accord prévoit une transition. Et l'accord prévoit qu'on donnerait la primature, la direction du gouvernement à l'opposition. Cette transition, si on donne à l'opposition, l'article 78 de la Constitution dit que le Premier ministre doit être nommé au sein de la majorité parlementaire. Alors, le prochain Premier ministre, même s'il sortait de l'opposition, il dirigerait sur base de quel texte? Voilà les impasses. Faudra-t-il, c'est la question qu'on se pose, élaborer concomitamment un accord, un acte constitutionnel pour régenter cette transition? De combien de mois, on ne sait pas encore, même si la CENI avance des dates, ce n'est pas encore adopté au dialogue. Donc, il y a des non-dits dans cet accord.
D'accord.
Il y a beaucoup de choses, des dates qu'il faut préciser, des engagements qu'il faut prendre. Mais il y a l'argumentaire développé de l'autre côté qui
veut rapidement, dit, parce qu'il faut...
La feuille de route, aujourd'hui, est aussi elle-même violée. Les principes, les affaires des mandats, les affaires des engagements qu'il faut prendre n'étaient pas forcément prévues dans la feuille de route.
D'accord. Jean-Claude, est-ce que finalement il faut carrément revoir la Constitution au regard de ce que dit Marcel?
Oui, mais mon estimé confrère a mis le pied dans le plat. Et donc c'est de cela qu'il s'agit, que les politiciens soient clairs. Parce que la Constitution, telle qu'elle a été adoptée, prévoit tous les mécanismes de fonctionnement de l'État. Maintenant, si on veut aller vers un accord dans ces cas, et dans ces pires des cas, il faut que ce soit inclusif. Or là, on n'y est même pas. Vous voyez ?
Et dans
donc, si on va dans le chemin de réviser carrément la Constitution, il faut qu'il y ait un consensus large. Et c'est cela que, je pense, doit rechercher les négociateurs et tous ceux qui sont autour de ces dialogues. Je vous assure, tant qu'il n'y aura pas le consensus d'une grande partie de l'opposition qui est en dehors de ces dialogues, on les refera même mille fois avant
d'accord.
les élections.
Et vous soulevez un aspect de ceux, des opposants qui sont en dehors du dialogue. Là, Marcel venait de nous donner des éléments techniques venant de la CENI comme quoi on viole carrément la Constitution, il n'y a pas moyen d'organiser des élections. Est-ce que vous comprenez la position finalement intransigeante du Rassemblement ?
Oui, mais non, la position du Rassemblement me paraît être une stratégie de négociation. Et je pense qu'on doit avoir l'humilité de les écouter. Parce que si on ne les écoute pas, nous compromettons même l'avenir de ces dialogues.
Mais le Rassemblement exige d'abord le départ au 19 décembre du président de la République.
Tout ce que le Rassemblement exige est de la responsabilité d'une partie des négociateurs. Qui doit les libérer les prisonniers pour politique ? Qui doit les libérer les médias ?
Parce que maintenant,
il y a une partie qui a une part importante à gérer dans la réussite de ces
négociations.
Et qui ne veut pas s'engager.
Or, dans cet accord, il est bien précisé que le président de la République, donc Joseph Kabila, reste en fonction. Ce qui n'arrange pas et ce qui continuera à déranger le Rassemblement.
Oui, ça va continuer à les déranger parce qu'ils ne sont jamais entrés en négociation.
Oui,
parce que il y a une partie de protagonistes au dialogue qui a 90% des solutions de ce dialogue et qui ne veut pas les appliquer. Je pense qu'ils emportent la lourde responsabilité devant l'État. Qui doit les libérer les prisonniers pour politiques ? Qui doit les libérer les médias ? Regardez même le cas de médias de M. Kamere. Mm-hmm. Ils ont été carrément floués. Hein ? Aujourd'hui, on nous dit libérer, mais la fréquence est attribuée à une... Voilà. Et c'est cela. Il y a une partie qui a la plus grande responsabilité dans la réussite de ce dialogue. C'est la mouvance présidentielle. Il faut qu'on se cache par la face.
D'accord. Alors, Romain, vous avez suivi le débat, disons les analyses de Marcel et de Jean-Claude. Est-ce que, à travers ce projet, vous pensez aussi que les opposants qui sont au dialogue vont cautionner la violation de la Constitution ?
Répétition un peu.
Je disais, vous avez suivi le débat ou les analyses de Marcel et de Jean-Claude. À votre niveau...
vous sentez...
Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu ? Vous m'entendez mieux maintenant ? La réalisation va nous aider à retrouver Romain. Marcel, dites-nous, c'est la question que j'étais en train de poser à Romain. Est-ce que vous pensez que les opposants qui sont au dialogue, maintenant là, ils vont cautionner la violation de la Constitution ?
Non, les opposants qui sont là réaffirment leur détermination à sortir du dialogue avec un almanach, un programme, un chronogramme, un calendrier. Et ils ne sont pas forcément en train de violer les dispositions de la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Ils veulent justement qu'avec la collaboration de la CENI, que à la fin de ce dialogue, qu'on ait au moins une idée de quand est-ce qu'il y aura élection, dans l'ordre qui a été accepté. C'est-à-dire, en commençant par la présidentielle, couplée aux législatives nationales et provinciales, et si les moyens techniques et financiers le permettent, les locales. Donc, mais quand nous regardons comment ça se passe, il y a la nécessité aujourd'hui pour Kodjo récusé de pouvoir conclure ce dialogue au stade où il est, avec les points de convergence qui ont été dégagés, avec les divergences persistantes qui sont là, et qu'ils puissent se déporter. Comme ça permettrait aux organisations mandantes, c'est-à-dire à ceux qui l'ont envoyé, de pouvoir, cette fois-là, désigner un continuateur pour la finalisation. Quelle est la finalisation qu'on cherche ? On cherche ce que mon co-débatteur ici a appelé un consensus plus large. Pourquoi rechercher ces consensus plus larges ? C'est justement parce que le projet d'accord tel qu'il se présente, c'est un projet qui, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte qu'on puisse mettre une sourdine sur un certain nombre de dispositions de la Constitution. Et pour cela, il faut associer les acteurs majeurs, qui ne sont pas, la plupart des acteurs majeurs, ne sont pas dans ces dialogues-là tels qu'ils se déroulent. Donc il faut aller vers eux, vers un consensus, ça veut dire conclure ces dialogues, faire en sorte que
le fruit de ces dialogues, qu'ils en débattent avec ceux qui ne sont pas là pour constituer de nouveau une table. Didier Reynders, qui est le ministre des Affaires étrangères belge, a stigmatisé justement cette possibilité, a ouvert cette brèche en disant qu'il faut... Il a même cité le nom de Saïd Dinit pour la continuité du travail que Kodjo aura fait. Moi, je pense que le temps est arrivé. Et au stade où nous parlons, les rassemblements ne dorment pas. Les rassemblements vont en conclave ce samedi. Et les rassemblements vont prêter un cahier des charges à opposer justement à cet accord.
D'accord.
Pour qu'au prochain round, que des discussions se fassent. Donc la culture du dialogue doit être une culture permanente. Le dialogue, même si Kodjo est terminé, mais il va continuer pour pouvoir... élargir le consensus.
D'accord. Alors, on me signale que Romain est de nouveau en ligne. Romain, est-ce que vous pensez que ce projet d'accord répond aux desiderata de toutes les parties prenantes à ce dialogue?
Oui, mais partie prenante pour ceux qui sont au dialogue, comme tu l'as dit. Mais ça ne ramasse pas les opinions des uns et des autres. Or, le vrai dialogue devait être inclusif, comme on le dit. Vous sentez qu'il y a une frange qui reste dehors, comme l'a dit le confrère, le rassemblement qui va aller en conclave bientôt et qui va ressortir le point pour lui qu'il trouve que c'est nécessaire. Si on intègre ce point, le dialogue sera le vrai. Donc il y a toujours des choses à faire et une mer à boire. Tant que toutes les parties concernées, toutes les parties de l'opposition, toutes les parties... de différentes plateformes de la République ne se seront pas retrouvées autour de ces dialogues pour arrêter une fois et pour toutes la suite à donner à la ligne politique de notre pays.
Voilà. Alors, Jean-Claude, dites-nous, on parle vraiment entre accords entre politiques, mais quelle est la place finalement de la population en rapport avec justement cet accord politique?
Mais la population, c'est celle qui s'exprime par des voix que le dialogue n'a pas prévu. C'est ce que je vous disais. Tous ces événements qui se passent à travers les pays, c'est l'expression de la population. C'est la voix de la population qui veut se faire entendre.
Et les politiques ne veulent pas tenir compte de ça.
Voilà. Les politiciens, eux, estiment que c'est des insurrectionnaires, voilà, c'est des rebelles, ils veulent le renversement du pouvoir par la force, et ainsi de suite. Voilà, tant qu'on n'écoutera pas ces voix qui viennent de l'intérieur du pays, qu'on ne se voile pas la face, nous allons droit vers un chaos.
Merci. Réagissons à ce projet d'accord politique distribué par le facilitateur Edem Kodjo, délégué du dialogue. Le député de la majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo, estime que ce projet assassine la constitution de la RDC. Pour le président de l'Union congolaise pour la liberté ULC en sigle, l'existence d'un gouvernement de large union nationale tel que prévu dans ce projet d'accord politique va créer un dysfonctionnement total entre le Parlement et ce gouvernement au regard de l'article 78 de la Constitution. Écoutons Henri Thomas Lokondo au micro d'Askin Zigdiatayoro.
Quand le projet d'accord dit qu'il sera mis en place un gouvernement de large union nationale, dont le premier ministre viendrait de l'opposition, cela veut dire, en d'autres termes, qu'il faut créer une nouvelle majorité dans un jeu de coalition. Et pour identifier cette coalition, le président de la République doit nommer un informateur, et ce conformément à l'article 78 de la Constitution, étant donné que notre Constitution ne prévoit pas l'existence d'un gouvernement de transition. Et aussitôt que ce premier ministre est nommé, ainsi que les autres ministres issus de l'opposition, ils deviennent tous de la majorité. Et ce gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. L'accord ne pense pas à cela, il pense plutôt à violer vigoureusement l'article 78 de la Constitution. Deuxième exemple, et ce qui est grave, qui est une abomination, c'est la violation incroyable de l'article 100 de la Constitution, qui donne au pouvoir législatif le pouvoir de légiférer. Parce que l'article 23 du projet d'accord de Kodjo dit en son point F que l'essence de l'accord étant le consensus va alors régir également les relations entre le gouvernement et le Parlement. En clair, cela veut dire que le consensus supprime le vote, pourtant prévu par la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat comme mode d'adoption des décisions, par oui, non ou abstention. C'est extrêmement grave.
Merci beaucoup. Alors, Jean-Claude, vous avez suivi la réaction de Henri Thomas Lokondo. Ça paraît quand même assez surprenant, un député de la majorité réfléchir de cette façon.
Oui, et il me paraît avoir raison. Parce que, je ne sais pas, la majorité, je pense, a fait un très mauvais calcul en refusant systématiquement d'organiser les élections. Parce que il va accoucher au sortir de date butoir prévue par la Constitution,
le pays va accoucher d'une pieuvre. Et on ne sait vraiment pas, il y a des incertitudes sur tous les points. Les choix de ne pas organiser des élections à temps opportun a été fatal pour l'image de la majorité. Et aujourd'hui, rechercher un accord, c'est un replâtrage qu'on est en train de chercher pour sauver la face. Mais tout le monde sait qu'il y a une majorité qui est responsable. L'histoire retiendra qu'il y a une majorité au pouvoir pendant 5 ans qui a été responsable du dérapage qui adviendra au pays après le 20 décembre.
D'accord. Voilà. Alors il nous reste au moins de 5 minutes. Vous allez aussi devoir conclure. Quel peut être l'avenir finalement de ce projet d'accord?
L'avenir de ce projet d'accord repose sur les consensus, parce que tout le monde sait qu'on va mettre on va caresser la constitution dans les sens du poil, tout le monde le sait.
Et c'est qu'il faudrait un deuxième dialogue.
Voilà.
D'accord. Romain, vous êtes à Tshikapa, je rappelle. Comment vous avez analysé les propos de Henri Thomas Lokondo lorsqu'il dit que ce projet d'accord assassine carrément la constitution? Rapidement, et vous allez aussi conclure.
Merci. Je rejette Thomas Lokondo dans ses propos parce que ce qu'il dit, c'est vrai et clair. Apparemment, les analyses qui sont en train d'être faites, on les fait d'une manière de sauter certains versets de la Constitution et sans pouvoir les évoquer. Il fallait lire toute la ligne des articles, partant de ces articles 74, 75, avant d'arriver à 78 et autres, on comprendrait comment est-ce que les choses sont définies et sont faites. Mais les décisions qui seront prises dans ces accords, les conclusions qui vont y sortir, moi j'ai le nombre des conclusions liberticides qui ne donnent pas la paix à la République démocratique du Congo et qui sont susceptibles de soulever des problèmes juste après ce dialogue. Je sais que la fin du dialogue Edem Kodjo n'est pas la fin du dialogue parce qu'après ce dialogue, il interviendra encore un autre dialogue. Merci.
D'accord. Merci beaucoup et nous allons finir avec vous, Marcel. Un parti de la majorité qui réfléchit, comme je l'avais dit, c'est quand même surprenant. Et quelle leçon tirez-vous de ce genre de déclarations?
Bon, je note d'abord que aujourd'hui la majorité subit quelques dissensions internes. Vous avez un homme comme M. Ruben Okende qui est parti. Vous avez aujourd'hui un François Mwamba qui on avait donné la charge de diriger le mécanisme de suivi, qui est parti en disant qu'il remerciait le président de la République de lui avoir confié des fonctions importantes à lui qui n'était même pas de sa famille politique. Aujourd'hui, il a rejoint Étienne Tshisekedi Mulumba du côté du Rassemblement. Nous avons aujourd'hui Henri Thomas Lokondo qui tient des propos qui ne sont pas forcément dans la lignée ou dans l'orientation globale de la majorité. Ça veut dire que, quelque part, les langues commencent à se délier au niveau de la majorité.
Rapidement, donc, pour conclure.
Rapidement, j'ai dit que l'homogénéité qui a régné jusqu'ici commence à perdre un peu de solidité. Alors, pour revenir à l'accord, nous disons que l'accord que Code va sortir va retenir en son sein des points qui sont comme des acquis. Tout le reste, il faudra négocier un dernier virage, aller vers ceux qui n'ont pas pris part à ces dialogues, rencontrer les préoccupations qu'on a appelées en d'autres termes les préalables, et encore que ces préalables doivent être actualisés. Si on a libéré les prisonniers hier et qu'on en a arrêté d'autres, il faudra que ces préalables actualisés que le rassemblement va prévoir au cours de son conclave soient rencontrés. Merci. Aujourd'hui, il y a encore d'autres préalables, ce sont des édifices des partis politiques qui ont été démolis. C'est sur les détritus de ces édifices qu'il faudra rebâtir un nouveau consensus en bandant les plaies, en indemnisant peut-être ceux qui seront victimes, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on ira vers une convergence de vues qui peut sauver le pays.
Merci beaucoup et c'est sur cette note que nous allons mettre fin à cette tribune de presse du vendredi 30 septembre 2016. Je dis merci à Kéline Kouté qui m'a aidé à préparer cette émission, Péléki Pélamondo qui était à la supervision et Sylvain Matundu qui vous a fait parvenir cette émission chez vous à la maison. N'hésitez pas à nous faire des remarques et suggestions. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Excellent week-end à vous tous et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Au revoir.